Et ben on a surtout la chance en live ce soir d'avoir encore quelqu'un en interview.
Oui, ça y est. Oui. Bon, on vous l'avait promis. Hein, il faut laisser les groupes, transporter leur matériel dans des caddies.
Leur laisser le temps d'atterrir.
Voilà, c'est ça. Et là, c'est la voix de Jean, donc l'un des membres du groupe Montevideo.
Ah oui, le chanteur, le leader,
qui passe ce soir.
Le leader charismatique.
J'osais pas le dire, mais s'il le dit lui-même, c'est que
voilà. Et vous jouez à 20h30, c'est ça?
On joue à 20h30, on joue pas un peu plus tard? Non, c'est ça, oui.
Exactement. Ouais, c'est ce qui est écrit sur le petit papier. 20h30.
Donc, tu as encore un peu le temps, hein, ça va.
Oui, ça va, tranquille.
Alors DJ Flup, je te laisse au niveau de tes questions que tu as pu préparer pour monter vidéo.
Alors bon, moi de ce que j'ai pu... écoutez, je connaissais pas votre groupe. À chaque fois, c'est ça qui est classe avec Maxime, c'est que ça me fait découvrir des groupes. Donc je me suis un peu plongé dans ce que vous avez pu faire, votre histoire, les trois albums. Donc le dernier album qui s'appelle Temper Plane, sorti sur Tiger Sushi. Raconte-nous un peu comment s'est fait la rencontre avec Maxime. C'est Maxime, dis-nous un peu comment il t'a dragué.
Alors nous, en fait, on a été contacté par Maxime, qui je pense travaille avec notre tourneur, qui est basé plutôt dans le sud, qui s'appelle Mélodine, Fred, et c'est lui qui nous a mis en contact direct avec. C'est quelqu'un qui gère notre tournée pour la France. Donc nous, on ne sait jamais trop où est-ce qu'on va atterrir, etc. C'est très excitant. On adore tourner en France. On adore ce pays. Qui regorge de super festivals. C'est assez marrant d'arriver finalement dans le jardin de chez Maxime. Et il y a l'air d'avoir une ambiance tout à fait sympa. Hein. C'est apparemment sa cinquième édition, je crois.
Sixième édition.
Donc on est très content d'être là. Il fait super beau. Voilà.
Vous venez d'où exactement?
Nous, on vient de Bruxelles.
Ouais.
On est de Bruxelles.
Ouais. Vous jouez souvent en France?
En fait... Le
pas
lien,
autant que vous le voudriez.
Non, mais exactement. Le lien avec la France s'est fait par l'intermédiaire de notre producteur, en la personne de Joachim Boazis, qui est plus connu sous son nom Joachim pour ses productions électro. Son label aussi, parisien, Tiger Sushi, des groupes comme Pony Hawks, d'autres groupes comme Maestro. Nous, on l'a rencontré il y a 6 ans dans le cadre des pré-productions de notre album précédent. Et c'est quelqu'un qui, entre-temps, a déménagé à New York. Ça nous a permis d'aller faire l'album là-bas.
Moi, je trouve que c'est pratique.
Oui, exactement.
C'est bien quand même.
Exactement,
tu as déménagé à New York, mais... Oh,
mais attends, mais t'inquiète pas, on arrive tout de suite. Et c'est exactement ce qu'on s'est dit. On s'est dit, mais c'est un signe, quelle chance. Il venait de s'installer à Brooklyn dans un studio qu'il avait monté de toutes pièces dans un garage qu'il avait racheté. Enfin, ça nous a permis en fait de nous immerger le temps d'un album, ce qui est assez chouette et important pour un groupe. Le lien avec la France, c'est ça, c'est surtout rencontrer la personne qui arrive à écouter les démos d'un groupe et les accoucher sur un album. Tel un Brian Eno faisait à l'époque avec des groupes comme U2 et des trucs comme ça. Enfin, cette espèce de cinquième membre du groupe un peu dans l'ombre. Ben, nous, on l'a trouvé en la personne de Joachim.
Conny Planck aussi. J'ai vu un documentaire il n'y a pas longtemps sur Conny Planck.
Ah oui, exactement.
Celui qui a produit plein de tous les groupes de krautrock, qui a fait les deux premiers Kraftwerk. Quand on rencontre des gens comme ça, c'est bien. Quoi. Si on tombe sur quelqu'un avec qui on peut créer...
C'est ça qui est pratique et c'est quelqu'un qui très naturellement s'est installé au sein du groupe comme un espèce de catalyseur d'énergie et surtout un bon producteur, un bon mixeur aussi.
J'ai vu
que dans la programmation, on en parlait tout à l'heure du style pop, vous êtes défini comme pop. Et comment vous définiriez?
On a toujours voulu être une espèce de groupe hybride qui a toujours voulu mélanger des influences dance, électro, avec une énergie très punk. D'ailleurs, notre premier album, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est comme ça qu'un groupe comme Ginzu, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous est tombé dessus d'ailleurs sur le premier disque, qui nous a d'ailleurs signé sur son label, a flashé sur notre musique. C'était ce côté très... Dans un rock à guitare, mais avec quelque chose de dansant et d'électro derrière. Voilà. plus que de la pop. Je pense que la pop, ça a été le virage pop, ça a été un peu le deuxième album, une signature sur EMI qui n'existe plus maintenant. En 2012 et où il a fallu nous coller une sorte d'étiquette et partir un peu plus aussi dans des chansons à texte. C'est peut-être un peu ce côté-là où ça a été un déclic pour moi de commencer à écrire des paroles en fait et de me dire que je pouvais peut-être raconter des choses sur un album.
Et tu nous cites Ginzu, ouais, dont je connais les disques et en plus, t'as fricoté avec eux.
Oui, c'est ça. Moi, je joue avec eux. Je joue avec eux, même si Ginzu, nous, on n'est pas très rapide à la détente, puisqu'on met 6 ans entre chaque album. Mais voilà, eux, n'en parlons pas. On est dans une sorte d'album attendu depuis, je crois, 2011, qui n'est toujours pas là. On ne sait pas très bien où on en est.
Pas mal de temps.
Ça nous est arrivé de nous isoler dans les Ardennes belges pour ramener péniblement 2 morceaux après 15 jours d'enregistrement. Enfin, il y a un peu cette remise en question pour l'instant sur le style. Mm-hmm. Je pense que c'est compliqué en fait pour un groupe pop, rock, un groupe à guitare aujourd'hui d'essayer de se faire... de suivre cette transition urbaine, j'ai envie de dire, en France, où on n'entend plus que du hip-hop et du Angel, et il n'y a plus que ça qui intéresse les festivals. Les groupes à guitare sont de moins en moins demandés, j'ai l'impression aussi. Le mec, il est content quand il voit 2 personnes débarquer sur scène, la chanteuse et un mec avec un laptop et des pads. Pour lui, c'est bon. Pour lui, c'est gagné. Sans parler des DJ et tout ça. Je crois que
tu ressens vraiment ça,
ouais. Ouais. Nous, on ressent vraiment ça en tant que groupe. Et on a de la chance d'avoir des festivals comme Dour et les Francophonies de Spa qui nous programment cet été. Ouais. C'est un super spot sur la grande scène avant Métronomie le samedi soir à Dour. Je fais un peu de la promo.
13 juillet à Dour, 19 juillet à Spa.
Mais par contre, en France, on sent qu'on a du mal à trouver encore une place dans ce créneau. Et je crois que c'est ça que... parler de Ginzu qui se posait des questions là-dessus pour l'instant. C'est ça qu'on est en train de vivre, une remise en question un peu globale. Est-ce qu'il faut encore mettre des guitares sur un disque?
Ouais.
Voilà. C'est un peu ça qu'on traverse, sans vouloir être déprimant.
Non, tu nous déprimes pas du tout.
Je pense que de toute façon, aussi bien Didier Flup que moi, on est content quand il y a des guitares sur un disque. Hein.
Mais c'est ça, moi je crois que...
Moi j'en joue très mal, mais j'aime bien. Hein. Je l'apprends toujours, hein, mais moi, de toute façon, je peux comprendre quoi. Rien que sur le fait d'un groupe de ne pas vouloir faire de redites, déjà, ça, je le comprends parfaitement. Si on a déjà pu bosser avec un groupe sur un album, et vous, déjà, en être au troisième, je peux complètement comprendre ça, quoi, de pas vouloir refaire la même chose. Même si on a commencé à composer un truc qu'on trouve vraiment, vraiment potable, mais qu'on s'est dit, mais en fait, on avait déjà utilisé vraiment ces panels d'arrangement, tout ça sur les 2 premiers, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Moi, je trouve ça plutôt sain dans un groupe, mais après, c'est vrai que ça peut devenir compliqué en studio, pour la maturation.
Non, je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions, en fait, en musique. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut fonctionner avec... Nous, c'est ce qu'on fait, c'est que voilà, on digère ce qu'on... On est curieux, on digère ce qu'on écoute... On a tous été un peu DJ, on est tous un peu friands de nouveautés, etc. Voilà, je regarde le descriptif, Prime Scream, New Order, Métronomie, c'est un assez bon...
c'est oui, un assez bon, t'es content.
Voilà, ouais. Oui, je suis très content. Parce que c'est justement ce que nous, on essaye de faire, c'est mélanger ce côté dansant et avec des guitares acides, rock.
Ouais, ça, j'ai pu le lire pas mal de fois sur Internet, les groupes de Factory, de Manchester, tout ça.
Non, on est un peu là-dedans.
Alors, vous êtes combien sur scène? Comment ça se passe, le groupe?
Alors là, on est en formule un peu réduite, puisqu'il fallait un peu s'adapter à la grange de Maxime, qui je dis, c'est une très chouette petite scène.
On a appris tout à l'heure comment elle a été construite, la scène. C'est le voisin. En fait, tu vois, là, c'est la maison de Julien. Je ne sais pas si tu vois qui c'est, Julien. On te le présentera.
Ah oui,
après,
oui, Julien, le frère du pharmacien, exactement.
Le frère du pharmacien. Et donc, c'est chez ça. Julien et c'est son voisin qui lui a amené une énorme palette qui a constitué le début de la scène. Et
c'est
ensuite,
ça.
Il s'est
c'est
dit,
comme ça que c'est, comme
voilà,
ça
c'est bon, je complète, il bon, y a moyen de faire une scène et tout, si je rajoute. Donc oui, il n'a pas fait assez grand pour que vous soyez 5.
Mais voilà, donc, comme quoi, on est 5 sur scène, on est
5 d'habitude.
Deux guitaristes, un bassiste, moi j'assure un peu les claviers, je chante, et mon frère à la batterie, voilà.
D'accord, vous êtes plutôt 5.
Didier, on est plutôt 5 que 4.
D'autres questions?
Bon, moi, après, c'est des questions, des choses que je me demandais sur l'élaboration du disque à New York. Est-ce que vous étiez déjà tous allés à New York avant de...
Alors, on avait tous été à New York. Et figure-toi qu'on avait été à New York dans les studios de DFA, qui est ce label new-yorkais que James Murphy, membre de LCD Sound System, avait créé. Et en fait, on a eu cette chance de pouvoir faire un essai sur un titre. On a saisi un peu l'opportunité parce que c'était un peu notre label fétiche à l'époque, l'envie de se retrouver dans un studio qui a été fréquenté par des mecs comme les Raptures, LCD Sound System. Je crois que c'était une opportunité. On est parti 4 jours enregistrer un titre. Ils nous ont pu rappeler parce que... Mais c'est pas comme si on avait fait des dégâts, mais il se fait qu'apparemment Arcade Fire venait bloquer le studio un mois après, pendant 6 mois. Et donc on a un peu perdu le lien. Et c'est là-dessus qu'on a rebondi sur la personne de Joachim, qui pour nous était un peu plus le plus DFA des producteurs français accessible. Donc voilà, ça c'était notre première expérience avec New York, déjà dans un contexte d'enregistrement, de studio, etc. Mm-hmm. Mais là, on y est parti un mois au total, donc on logeait chez des potes belges expatriés, et on était tous les jours en studio.
Et vous avez goûté aux nuits new-yorkaises,
ouais,
quand il y avait moyen.
Exactement. Mais c'était assez extraordinaire de tout d'un coup, cette espèce de dépaysement, d'être loin des siens, être dans une de l'énergie new-yorkaise, cette espèce de bon, ça peut paraître un peu superficiel, mais les gens accessibles, les gens curieux, justement, le chanteur des Raptures qui rapplique et qui vient, qui nous prête ses guitares, qui nous prête sa batterie, parce qu'en fait, il souloue le studio de Joachim. Enfin, c'est un petit monde finalement, c'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que il n'y a pas ce côté je trouve qu'il y a ce côté musicien décomplexé à New York où
on sent pas de cloison.
Voilà, si exactement.
On se pointe, on a envie de faire de la musique à New York, on peut
c'est ça, on veut croiser le bassiste de Pavement qui te sert un cappuccino dans un bar à Brooklyn. Il n'y a personne qui est en train de lui reprocher d'avoir un daily job à côté de sa carrière. Je sais pas, j'aime bien ce côté esprit ricain, où tout le monde se partage un peu, les musiciens. On croise le batteur de Caribou qui vient jouer avec le batteur des Raptures, le chanteur des Raptures qui coproduit un petit groupe. Enfin, je sais pas, il y a une espèce d'émulation comme ça de groupe, surtout à Brooklyn, qu'on a trouvé assez chouette.
Que tu peux peut-être avoir aussi un peu à Bruxelles, mais à une échelle moindre. C'est ça. Tu peux avoir.
Ce qui est assez contradictoire, c'est que voilà, c'est une toute petite ville où il pourrait y avoir beaucoup plus de synergie entre les groupes. Et au contraire, c'est plus compliqué de créer des collectifs. Je sais pas à quoi c'est dû. La Belgique reste un pays extrêmement compliqué.
Pourtant, il y a des groupes qui se démarquent en Belgique. Je pense aux Girls in Hawaii ou autres qui ont pu quand même arriver à se démarquer et arriver à quelque chose d'autre que les groupes français. Voilà. Il y a vraiment une patte belge, on va dire.
Complètement.
Aussi.
Nous, c'est nos modèles. Ginzu, Girls in Hawaii, c'est des groupes qui nous ont donné envie de nous exporter en France notamment. Et on voit que ces gens peuvent remplir la cigale et faire des zéniths.
Ouais,
donc,
bah là, ça...
ça nous donne envie. Ça nous donne... Voilà,
c'est vrai que là maintenant en Belgique ça date pas d'hier hein. De toute façon j'étais encore à la fac et puis je m'achetais le premier album de Deus et puis après bah, je suivais les projets.
Je viens d'ailleurs de
projets.
Faire un l'anniversaire des 20 ans de ID Crash.
Ouais. Oui c'est vrai, ils rejouent.
Tout à fait.
Ouais, c'est ça.
Ils ont fait 10 dates consécutives.
Donc là c'est vraiment clair. Pour moi c'était vraiment le point de départ. Voilà, de savoir cette scène belge qui ressemblait pas aux autres, qui n'avait pas peur de mélanger. Alors après, on peut remonter, peut remonter un peu plus loin, comme moi j'aime Arnaud aussi avec Tissimatic, tout ça. Donc il y a toujours eu ça en Belgique.
Il y a ce côté où en effet on est des francophones, néerlandophones, germanophones et on chante en anglais. On essaie de trouver le moyen d'aborder, d'approcher le plus de monde possible. Je pense qu'en France, tu as aussi ce côté, vous avez quand même mis le temps à chanter en anglais. Et à ce que ce soit accepté par les grosses radios, des groupes comme Tahiti 80 le faisaient un peu, je trouve, en premier, en précurseur. Même si, moi, je ne suis pas très bon en culture rock française. Je suis sûr que dans les années 80, il y avait
les Dogs. Tu peux écouter les Dogs.
Ah ben voilà. J'attendais que tu me cites une référence.
Bon, ils ont un accent un peu rouennais.
Mais c'est intéressant. Même Phoenix, quand ils ont commencé à le faire, ils n'étaient pas spécialement bien accueillis sur leur propre territoire. Il a fallu que le français de base les voit au Grammy, aux States, pour que Phoenix devienne ce groupe.
Nous, c'est la scène électronique qui nous a...
Oui, la French Touch.
Qui nous a aidés. Mais sinon, ouais, c'est ça. Il y a toujours ce truc avec la langue. De toute façon, ça, c'est un débat qui...
Oui.
Faut toujours que ça reste ouvert, quoi, en fait. Hein. On peut très bien essayer de bosser des textes dans sa langue natale, essayer de faire quelque chose d'original. Mais pourquoi s'empêcher de faire quelque chose avec des sonorités anglo-saxonnes qu'on a...
Bien sûr.
Bon, ça, c'est vrai que nous, en France, on a encore un peu de retard. Un peu de retard.
Toujours, un train de retard.
Mais ça devient bien, je trouve.
Non, écoute, moi j'avais... c'était sur ça que je voulais t'interroger, sur cette escapade new-yorkaise. Et puis j'avais noté et tout, sur le réseau Ferrarock, le réseau des...
Le réseau des radios qui passent des...
Il y a une trentaine de radios,
c'est ça. Des musiques indépendantes, ouais. Oui, il y a Radio PFM, Arras notamment, RCVI.
Parmi les 30,
c'est super, moi je trouve que c'est génial de se dire que les tourneurs attachent de l'importance à ça aussi. De voir qu'il y a quand même moyen d'exister au-delà du réseau Virgin Radio et UFM, etc., qui est devenu complètement cloisonné et inaccessible, et de voir qu'il y a moyen d'arriver top 13 d'un réseau indépendant en France, c'est super réjouissant. Voilà, qui sait, nous on est là jusqu'en l'été 2020. On lâche pas l'affaire.
On n'a pas éteint New York pour rien.
Voilà, exactement. Donc, qui sait, peut-être à la rentrée, revenir sur l'île, repartir un peu de manière plus réaliste autour du nord de la France. Voilà.
Vous n'êtes pas très loin, de toute façon.
Non, de toute façon.
Oui. Bien, merci pour
merci à vous.
Avoir répondu à ces questions en direct. Je rappelle, chez Wamfest à Noyelles-sous-Bellonne, nous sommes devant la grange, la ferme de Julien, en direct sur Radio Scarpe Sensé. Et il y a Valentin, je rappelle, à la technique, il y a Joris, il y a Carole, il y a Jean-Marie, DJ Flup, et puis...
Et on était avec Jean, le grand leader de Montevideo,
qui joue à 20h30, on le rappelle,
merci
ce soir
beaucoup.
Chez Wamfest. Salut.
Merci à toi.
Merci beaucoup. Ouais.